Radio Stable.
Morning edition from NPR News.
Que se reproduce esto en la radio.
France Inter, le 18-20.
Alors on sait à quoi il ressemble désormais ce Parlement européen. Il est bousculé un peu par une extrême droite qui est bien là, plus nombreuse que précédemment dans certains pays. C'est impressionnant et nous irons en Hongrie, en Italie ou en Pologne, mais les populistes n'ont pas provoqué le raz-de-marée que certains prévoyaient. La gauche a résisté, en Espagne, au Portugal notamment, nous y irons aussi. La gauche est verte en Allemagne et en France aussi d'ailleurs en partie. En tout cas, une plus grande influence désormais et peut-être que l'influence tout court de l'Allemagne est aujourd'hui un peu remise en question, on y viendra aussi. Il est intéressant de le lire, ce nouveau Parlement, plus fracturé, plus fragmenté certainement, mais peut-être aussi donc plus ouvert. Après tout, la culture du compromis est bien censée être celle de l'Europe. À 18h55, comme chaque jour, Jean-Marc Four sera là, peut-être un peu avant, même il nous dira comment on a regardé ces élections d'ailleurs, si toutefois on les a regardées. Allez, l'Europe est vaste, elle est complexe aussi, c'est tant mieux, on a une heure devant nous.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
On va beaucoup se promener, c'est bien l'intérêt d'un jour dans le monde, d'un jour en Europe aujourd'hui. Une question d'abord pour vous présenter nos deux invités qui sont là, Marion Van Rentengem, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, vous avez écrit « Mon Europe, je t'aime moi non plus », 89-2019, c'est chez Stock. Et bonsoir Sylvain Kahn.
Bonsoir.
Vous êtes prof à Sciences Po, spécialiste des questions européennes. Vous avez, vous, écrit avec Jacques Lévy, « Pays des Européens », c'est publié chez Odile Jacob. Je vais vous poser la question à tous les deux, est-ce qu'on dit quoi? On dit que la bouteille est à moitié vide ou à moitié pleine? Est-ce qu'il est plus intéressant, plus ouvert, ce Parlement, ou désormais plus compliqué?
Je trouve c'est vraiment la bonne question, parce qu'on peut lire ce camembert, ce nouveau camembert, d'ailleurs, dont on ne sait pas exactement encore à quoi il va ressembler. Ça va dépendre des compositions des groupes. Mais je me posais, ça m'a un peu tourmenté cette nuit, et je me pose exactement la question en ces termes. C'est-à-dire qu'on peut se dire, en effet, qu'il y a deux tiers du Parlement qui restent pro-européens, mais à l'inverse, et que les trois groupes eurosceptiques, europhobes, comme on les appelle, sont divisés. Malgré tout, on peut voir la bouteille à l'envers, c'est-à-dire dans l'autre sens, c'est-à-dire le tiers d'eurosceptiques est quand même assez puissant. C'est quand même la deuxième force maintenant du Parlement européen. C'est quand même énorme. Ils sont juste derrière le PPE. Et puis, je pense qu'il y a une occasion pour eux extraordinaire quand même, même s'ils sont divisés, même s'ils ont des tas de motifs de désaccord et de mésentente. Je pense que leurs disputes, ils peuvent les remettre à plus tard, tellement l'occasion de prendre le pouvoir est magnifique et est une opportunité, la première fois qu'ils l'ont dans l'histoire du Parlement européen.
Je vous pose la même question, Sylvain Kahn. Pour vous, bouteille à moitié vide ou à moitié pleine, même divisée, est-ce que ces élus-là risquent d'avoir une influence croissante et grandissante?
Bah, comme on dit au foot, je vais faire un changement d'aile.
Allez-y.
Moi, je crois surtout que c'est une grande victoire pour la démocratie, ce Parlement européen. Pourquoi? Parce que je pense que le terme de fragmentation à la réflexion, en fait, n'est pas le plus adapté. Ce qui est plutôt le plus adapté, me semble-t-il, c'est qu'on a un Parlement équilibré. Parce que, pour la première fois depuis qu'il y a des élections au suffrage universel, donc en 79, on a un Parlement élu à la proportionnelle, ce qui a toujours été le cas, qui est au plus près de la représentation des grands courants politiques et de pensée des Européens. Voilà. C'est-à-dire que l'écart entre le groupe le plus nombreux, qui est le PPE, comme vient de le dire Marion Van Rentengem, et le groupe le moins nombreux, qui est le groupe de la gauche radicale, c'est considérablement rétréci par rapport à ce qui se passait avant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme vous le disiez tout à l'heure, dans un Parlement où toutes les décisions sont votées par un compromis, c'est obligatoire, on n'est pas dans un pays national avec une majorité gouvernementale qui tient un gouvernement par la barbichette et le gouvernement qui tient sa majorité par autre chose que la barbichette, d'accord? Et donc, faut toujours des compromis. Sauf que là, l'espèce de duopole qui existait entre les socialistes et la droite de gouvernement n'existe plus.
Du coup, c'est plus compliqué à lire, mais plus intéressant à manœuvrer au fond, en fait.
Oui, et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, effectivement, c'est vrai que la droite radicale et extrême, traditionnellement europhobe, qui progresse quand même moins que ce qu'on pensait, parce que si on prend les trois groupes de droite, ils sont à 22-23% des sièges, contre 15% dans le Parlement sortant. C'est quand même moins que ce que certains sondages disaient vendredi soir, qui donnait 30%. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, on va vraiment avoir des majorités d'idées et des majorités de projets. Sur certains sujets, on va peut-être, voire probablement voir, je pense à la politique européenne d'asile, par exemple, des majorités qui vont, de projets ou d'idées qui vont peut-être aller de l'extrême droite à la droite de la droite. Et puis peut-être que sur le climat, on va avoir des majorités qui vont aller des verts, voire de la gauche radicale, jusqu'aux conservateurs qu'on appelle souverainistes. Vous voyez, donc c'est en ce sens-là que le Parlement européen me paraît finalement plus représentatif de la société européenne telle qu'elle existe vraiment.
Alors, on a beaucoup parlé du taux de participation en France, on va pas le refaire, mais enfin, visiblement, cette hausse du taux de participation, elle est assez générale, en fait, en Europe. Est-ce que ça veut dire, pour suivre ce que vous disiez, Sylvain Quatre, est-ce que ça veut dire, Marion Van Rentenghem, que pour la première fois, peut-être, les gens se sont emparés de leur Parlement européen, en fait, et emparés de ces élections-là pour leur donner, effectivement, une couleur qui est beaucoup plus conforme, finalement, à ce que nous vivons chacun dans nos pays respectifs?
Alors, puisque Sylvain Kahn prend le rôle de l'optimiste, je vais continuer dans le rôle de la pessimiste ce soir, mais c'est peut-être...
Je changerai d'humeur en Italie dans quelques temps.
Je changerai d'humeur demain matin.
Malgré votre belle chemise bleue, Europe.
Oui, c'est vrai, tiens, j'ai pas fait attention. Oui, donc on peut voir cette participation. J'étais d'ailleurs sur votre chaîne le soir des résultats. Il y avait quelqu'un, un ancien député, Alain Lamassoure, qui disait c'est formidable, c'est le renouveau démocratique, c'est la preuve que les citoyens ont enfin compris que l'Europe était démocratique, etc. Certes, l'Europe est démocratique, mais je pense qu'on continue à vivre sur les clichés qu'elle ne l'est pas, que la Commission européenne décide tout, n'est pas élue, etc., alors qu'elle ne décide rien, même si elle n'est pas élue démocratiquement. Enfin, tous ces clichés, à mon avis, persistent de manière très forte. Et je crains que cette participation soit un peu un leurre et un cache-sexe, laisse croire à une sorte de regain d'intérêt pour l'Europe, alors qu'il y a eu des enjeux nationaux un peu dans chaque pays très forts. En France, c'est évident, c'était le premier scrutin après l'élection de Macron il y a 2 ans. C'était le premier scrutin après une crise politique majeure des Gilets jaunes.
Mais c'est le cas en Italie aussi, sur Salvini. Voilà. C'est le cas finalement avec les Espagnols qui avaient besoin de réappuyer sur des élections législatives.
Voilà, et
c'est
on a beaucoup reproché au président de la République française d'opposer les nationalistes aux progressistes, enfin de faire une sorte de dichotomie, ce à quoi d'ailleurs, ce que Marine Le Pen a elle-même largement encouragé aussi. Mais cette dichotomie, elle existe un peu dans tous les pays. Donc je pense qu'il y a eu aussi un sursaut. D'ailleurs, dans un sens ou dans un autre, il y a eu des eurosceptiques europhobes qui se sont dit c'est le moment de prendre le pouvoir et de gagner, de montrer qu'on déteste cette Europe et qu'on veut la miner. De l'autre côté, il y avait les démocrates européens, pro-européens, qui se sont dit il ne faut pas les laisser faire. Donc il me semble que c'était plutôt ça la motivation.
Sylvain Kahn, très vite avant qu'on aille en Italie, je vous écoute.
Il me semble que l'augmentation de la participation bénéficie aux partis qui ont une vision très cohérente de l'Europe. C'est-à-dire qu'ils peuvent être pour ou contre, d'accord, mais en tous les cas, ils ont un corps de doctrine très cohérent. Et les partis qui perdent ce qu'on appelait traditionnellement les grands partis de gouvernement, la droite et la gauche classiques, eh bien, perdent, eux, s'effritent, voire s'affaissent, parce que précisément, ces partis sont tiraillés sur l'Europe, comme on le voit très très bien au Royaume-Uni, comme on le voit bien en France. Et donc, du coup, finalement, l'abstention... qui baisse, c'est la preuve que les gens ont envie d'un débat sur l'Europe qui soit clair.
Alors, j'espère que pour certains, ils l'ont eu, ce débat clair. Première escale, forcément, donc, pour les Italiens. On va rappeler juste 3 chiffres. Hein. Salvini, la Liga, c'était 6% en 2014, c'était 17% dernière législative, c'est 34% aujourd'hui. Donc, une victoire nette, c'est le moins qu'on puisse dire de Matteo Salvini, qui a mangé littéralement 5 étoiles. C'est ce que Mathilde Imberti nous racontait. On se retrouve juste après.
Un Italien, la une ce soir, Fabien, évidemment, Matteo Salvini. Au fil des heures, le visage de plus en plus cerné, on n'a pas beaucoup dormi ici. Les bureaux de vote ont fermé à 23h, les résultats sont arrivés au compte-gouttes. Matteo Salvini vient de revenir de Milan, exalté, extrait d'une vidéo Twitter.
Grazie, 9 millions de volte, grazie.
Merci, 9 amici. Millions de merci, vous m'avez ému. Je vais travailler pour rendre l'Italie toujours plus forte en Europe. Merci.
Arrivo a Roma, Ministero dell'Interno, ufficio.
On la sentait arriver, cette percée léguiste, dans les petites communes en particulier. La semaine dernière, j'étais avec ce retraité de Pescara dans les Abruzzes, un converti à la Ligue et à Matteo Salvini.
Lui, au moins, il fait ce qu'il dit. Regardez l'immigration. Moi, je ne suis pas raciste, mais c'est nous qui payons pour ces gens. Il y avait trop de migrants qui débarquaient chez nous.
Le discours sur l'immigration a fonctionné, les promesses purement européennes aussi. Matteo Salvini veut s'affranchir des contraintes budgétaires. Roberto applaudit. Au chômage technique partiel, son usine automobile a des difficultés.
L'Europe, ça n'a fait qu'empirer pour nous, les Italiens. Ils ont voulu accentuer l'austérité, mais nous, on vit plus mal qu'avant l'euro.
Alors l'Italie serait-elle toute acquise au patron de la Ligue ? Non, l'opposition existe. Ce qui change, c'est qu'elle est incarnée par le Parti démocrate qui crée la surprise lors de ce scrutin. Il devient deuxième parti d'Italie, au nez et à la barbe des 5 étoiles, l'analyste politique Antonio Noto.
Une partie de l'électorat vote pour le centre-gauche. Non pas parce qu'ils adhèrent au programme du Parti démocrate, mais comme un vote de sanction contre Matteo Salvini. C'est comme avec Berlusconi. On est pour Matteo Salvini ou franchement contre.
Première manche remportée par Matteo Salvini et de loin, qui pour l'instant ne lâche pas son allié 5 étoiles. Jusqu'à quand ?
En effet, jusqu'à quand ? Merci beaucoup Mathilde Merti. Sylvain Cad, il n'en a plus besoin de son allié 5 étoiles Salvini. C'était vraiment un référendum pour lui ou contre lui. Il a gagné, non ?
Il a gagné, mais pour autant, 33% c'est énorme, mais pour gouverner, ça suffit pas. C'est-à-dire qu'au Parlement, il faut pas oublier que c'est un peu comme des élections de mi-terme ou de mi-mandat.
Mais ça marche dans les deux sens. En fait, jusqu'à quel point le mouvement 5 étoiles a envie de rester, pardon de le dire comme ça, c'est pas du tout méchant, l'idiot utile de Salvini, vous voyez ce que je veux dire ?
Bien sûr.
C'est à lui qu'on rend service, pas à eux, au fond, pour l'instant.
Bien sûr, mais faut pas oublier que dans la campagne électorale des élections législatives de 2018, Matteo Salvini et la Ligue étaient les alliés de Forza Italia. C'est-à-dire que c'est effectivement une alliance de circonstances qui existe entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue depuis le mois de mai 2018. Et donc tout le monde s'attend tous les jours à ce que ça s'arrête. Et pour longtemps, tous les lendemains, ça continue. Donc, vous avez raison de dire que le mouvement 5 étoiles pourrait avoir intérêt ou ne plus avoir intérêt plutôt à soutenir la Ligue. Mais en même temps, la Ligue a continué à avoir besoin des 5 étoiles encore un peu.
Est-ce qu'on va aller en Hongrie dans un instant, Marion Van Rendengem, que vous connaissez bien, mais qui est le patron, au fond, de Salvini et d'Orban dans ces deux grands ? Alors, il y en a un qui aura un groupe à part, il y en a un autre qui, pour l'instant, ne lâche pas le PPE jusqu'à ce que le PPE le lâche lui-même. On en est un peu là avec le Fidesz d'Orban. Mais qui est le patron de ces deux énormes représentants de la droite populiste ?
Vous avez le don de poser toutes les questions qui me travaillent un peu en permanence.
Allez me donner une liste !
Alors, c'est vrai que Salvini, pour moi, est l'incarnation... C'est un peu le portrait robot du tribun populiste. Beaucoup plus qu'Orban, beaucoup plus que Kaczynski, beaucoup plus même que Marine Le Pen, quoi qu'il se ressemble pas mal. Et beaucoup plus que Marion Maréchal, en tout cas. Et il a ce côté, comme ça, populaire, tribun. Il change d'avis comme de chemise. Hein. Il avait fait la Ligue.
Il a voté en maillot de foot. Ça dit vraiment des choses, sérieusement.
Il avait quand même fait la Ligue du Nord avec une espèce de détestation de l'Italie du Sud. Par opportunisme pur, il a rassemblé l'Italie du Sud, etc. Et puis, il surfe sur l'Europe lui a fait un cadeau en se comportant très mal et en étant moins européenne que jamais, c'est-à-dire en laissant l'Italie à son propre sort face aux migrants qui arrivaient en Méditerranée. C'était avec ces accords de Dublin qui donnent l'obligation de demander l'asile dans le pays où on accoste. C'est vrai que l'Italie était vraiment en situation de vulnérabilité vis-à-vis des migrants et que l'Europe s'est rendue coupable. Donc Salvini vraiment bénéficie de ce tremplin là, et à mon avis pour un bout de temps parce qu'il a le charisme. De l'autre, il voudrait être le grand patron des nouvelles droites populistes, etc. Le problème, c'est qu'il a en effet un rival qui ne lui ressemble pas beaucoup, qui est Viktor Orban, sur lesquels il ne risque pas de s'entendre. Et Orban a les mêmes ambitions d'être le grand fédérateur en tout cas de la droite nationaliste en Europe. Ils ont deux stratégies au Parlement européen totalement opposées, puisque pour le moment Salvini est en dehors du PPE, Orban y est encore, mais un peu en sursis, puisqu'il a été plus ou moins sanctionné. Est-ce que Orban va en sortir ? Est-ce que Salvini lui-même va vouloir y rentrer ?
Mais comme le PPE ne va pas très bien, va un peu moins bien, ils vont peut-être, hésiter avant de faire sortir le Fidesz.
Et en revanche, je pense que le PPE va être obligé de leur lécher un peu les bottes pour rester un parti fort. Mais c'est vrai que la guerre des égos entre Orban et Salvini, à mon avis, sera un feuilleton intéressant dans les mois à venir.
Ben justement, tiens, allons retrouver à Budapest Ludovic Lepeltier-Koutachi. Bonsoir Ludovic.
Oui, bonsoir Fabienne.
Ravi de vous retrouver Ludovic, vous travaillez pour le Courrier de l'Europe centrale. On a eu l'occasion de se parler déjà et de se voir lorsque nous avons fait un jour dans le monde chez vous à Budapest. C'est pour ça qu'on a voulu vous retrouver. Effectivement, comme le disait Marion à l'instant, rien d'étonnant chez vous. Un score à la Orban quand même, on dépasse les 50%, il n'y a pas beaucoup en Europe qui peuvent dire ça. Je pense que c'est le seul d'ailleurs.
Au bout de 4 mandats.
Voilà, au quatrième mandat,
élections.
Absolument, Ludovic. Donc rien de très,
oui,
rien de très étonnant et en même temps très impressionnant quand même, objectivement.
Alors objectivement, oui, le score qu'il a fait, faut le rappeler, un petit peu plus de 51% des voix. On le voyait un peu plus haut à 52-53% selon les instituts de sondage. Il gagne quand même 1,8 point par rapport au dernier scrutin européen, donc il y a 5 ans. Alors c'est vrai que d'un côté, on a Orban qui est particulièrement fort en Hongrie, qui écrase littéralement le paysage politique hongrois. Et en même temps, on se pose la question de Budapest, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire de cette victoire-là, c'est-à-dire qu'il est effectivement dans une situation un petit peu bloquée, coincée sur l'aile droite du PPE, avec un Salvini effectivement qui essaye de fixer le périmètre des rassemblements des droites radicales en Europe, et un périmètre dans lequel Viktor Orban n'est pas forcément très très aisé.
Mais qu'est-ce qui va se passer entre le Fidesz et le PPE au final? Est-ce qu'on le sait? Parce qu'effectivement, il a été sanctionné, mais pas tout à fait viré quand même, parce que c'est trop dangereux. Lui a pour l'instant envie d'y rester. Qu'est-ce qui se dit chez vous sur le maintien ou pas du Fidesz dans le PPE?
Alors ça se dit à peu près la même chose qu'ailleurs en Europe, c'est-à-dire que effectivement Orban, c'est quelqu'un qui fondamentalement, je ne sais pas s'il cherche un leadership, en tout cas ce qu'il cherche, c'est d'avoir toujours les coudées franches pour être maître chez lui. Ça, c'est fondamentalement sa boussole. Et partant de là, lui, ce qu'il essaye toujours, c'est d'avoir une politique d'influence suffisante pour répondre à cet objectif-là. Et le fait d'être au PPE jusqu'à présent lui permettait d'être bien au chaud dans le club, de là où ça se passait, où les décisions se prenaient. Et d'une certaine façon, lui, quand même, rappelons le sens des mesures, c'est quand même un petit pays, la Hongrie, qui envoie un contagion de 21 députés au Parlement européen, donc ça reste un petit pays. Donc lui, la difficulté qu'il aurait, ce serait de sortir de l'ambiguïté à ses dépens, c'est-à-dire qu'il ne soit pas maître d'une exclusion du PPE, qu'il soit contraint d'en sortir, et auquel cas la question reste entière de savoir vers qui il va se tourner, avec qui il va s'allier.
Une toute dernière question avant de vous lâcher, Ludovic. Il y a ce tout petit parti qui s'appelle Momentum qui envoie quand même un député. Alors d'accord, c'est pas grand-chose, mais est-ce que ça dit quelque chose sur une forme d'opposition quand même ou pas du tout? Comment on doit le lire ça?
Alors oui, il y a eu une vraie surprise en Hongrie, et là je rebondis à ce que disait Sylvain Kahn concernant le fait que les partis qui défendaient une vision très claire de l'Europe ont bénéficié d'une certaine vitalité lors de ce scrutin, et c'est valable en Hongrie, c'est-à-dire qu'on a une vraie surprise, le premier parti d'opposition est la Coalition démocratique, qui a quand même gagné plus de 10 points par rapport au dernier scrutin, qui a fait campagne sur les États-Unis d'Europe, quand même, sur une vision très fédéraliste, et puis effectivement, Momentum, qui est très très peu en dessous de 10%, qui est à 9,92% et qui va envoyer pas un mais deux députés à Strasbourg. Et effectivement, on voit que les partis qui ont structuré l'opposition entre 2010 et 2018 sont en déclin très très fortement. Le Jobbik, les socialistes sont en recul considérable et les écologistes ne parviennent même pas à atteindre 5% des voix. Donc là, une opposition qui se reconfigure et la question est de savoir si elle va faire des petits avec les municipales et puis si elle va pouvoir faire mieux que les anciens partis pour incarner une opposition face à Viktor Orban.
Ludovic Lepeltier-Koutachi avec nous depuis Budapest. Merci beaucoup Sylvain Kahn, je vous voyais réagir à ce que disait Ludovic.
Oui, parce que ce que disait Ludovic fait écho au fait qu'il y a un parti totalement nouveau en Pologne qui certes n'a fait que 6% mais qui a été très fort dans les très grandes villes, en particulier Varsovie, qui est le parti du printemps, qui est un parti précisément résolument pro-européen. De même, en République tchèque, on a un parti, le parti des pirates, qui devient le troisième avec 14%. Et donc, on peut dire, dans une certaine mesure, que ces partis complètement atypiques, qui surgissent un peu sur la scène européenne en étant très pro-européens, sont un peu l'équivalent du succès des Verts dans l'Europe du Nord-Ouest. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que s'agissant de Orban et Salvini, il me semble que on peut faire l'hypothèse, dans leur famille, qui est la famille des droites radicales extrêmes, du good cop, bad cop. C'est-à-dire que, bien entendu, ils sont rivaux, bien entendu, il y a des querelles d'égo, mais en même temps, dans une large mesure, ils se retrouvent tous les deux, et du coup, ils font un pont. ils font un pont entre le PPE, c'est-à-dire la droite conservatrice classique dite de gouvernement, et les droites radicales et extrêmes. Et cela, Salvini est habitué à le faire, puisque du temps de la Ligue du Nord, quand son parti s'appelait la Ligue du Nord, puis du temps de la Ligue, quand il a changé le mot, il était allié avec Forza Italia de Berlusconi, qui est au PPE. Donc, moi, je vois plutôt le tandem Orban-Salvini, avec Madame Le Pen, pour l'instant, comme un alliage davantage que comme une rivalité. Et en fait, ça les sert qu'il y en ait un qui soit au PPE et qu'il y en ait un autre qui essaye de fédérer un grand groupe des droites radicales extrêmes.
Alors,
qui va s'appeler l'AENP ou l'AEPN, l'Association Européenne des Peuples et des Nations, qui a été lancée à Milan samedi 18 mai en grande pompe. C'était le jour anniversaire de la mort de Jean-Paul II. C'est pour ça que ça a été choisi par Salvini. Et il y avait 12 partis, 11 partis en plus du sien.
Et sans le PiS, en revanche, polonais.
Oui, sans le PiS polonais, parce que effectivement, le PiS polonais, d'abord, est très très opposé à Salvini en raison du différend qu'ils ont vis-à-vis de Poutine et de la Russie. Et par ailleurs, parce que effectivement, le PiS polonais, qui est très conservateur sur le plan des mœurs et de la politique, ne veut pas donner l'impression qu'il pourrait s'allier avec des post-fascistes.
Et je voudrais vous y emmener justement en Pologne pour fermer ce tour d'Europe des partis les plus assis sur un tas de voix populistes, si je peux le dire comme ça. Plus de 32% pour le PiS des Polonais, malgré une coalition de toutes les oppositions en face. C'est Thomas Giraudeau qui nous raconte.
Dans les allées d'un marché de la capitale, Martine se fraye un chemin avec sa poussette. Ce père de famille, la quarantaine, a voté pour le PiS, Droit et Justice, les ultra-conservateurs au pouvoir à Varsovie.
Le PiS n'avait jamais eu un résultat aussi élevé lors des européennes. Donc ce n'était pas si facile que cela de remporter le scrutin. Je suis un peu surpris, je pensais qu'on serait à égalité avec l'opposition, ou même que ces élections seraient favorables à la coalition européenne.
Cette victoire avec 7 points de plus que l'opposition, c'est évidemment un très bon signe pour lui en vue des législatives de l'automne, les élections les plus importantes en Pologne. Un peu plus loin, Zygmunt, un retraité, supporte l'opposition. Il a du mal à digérer la défaite.
Je ne suis pas du tout content. J'ai l'impression que tout va mal. J'ai peur que rien ne change d'ici aux élections législatives. Elles ont lieu dans trop peu de temps. Je pense que le PiS va encore l'emporter et être réélu pour 4 ans.
Même constat pessimiste de Beata, 45 ans, elle est aussi la seule sur ce marché à parler et à s'inquiéter de l'avenir de la Pologne dans l'Europe.
Je préfère que la Pologne reste dans l'Union européenne et j'ai peur que le PiS nous en fasse sortir. Pourquoi je pense cela ? Eh bien, ce n'est pas un parti pro-européen, il est trop nationaliste. Il veut que la Pologne soit séparée, toute seule.
Durant la campagne, l'opposition, la coalition européenne a brandi la menace d'un Polexit, la sortie du pays de l'Union si le PiS remporte les européennes puis les législatives de l'automne. Sans succès, les Polonais n'y croient pas vraiment et veulent à une écrasante majorité rester dans l'UE.
Thomas Giraudeau pour le reportage. Je ne veux pas qu'on finisse cette première partie, Marion Van Rentengen, sans parler quand même des Pays-Bas, avec un score qui est moins important que prévu chez les extrêmes de droite, avec Vox, pareil, qui est là, qui vient d'arriver, mais enfin un score encore une fois moins important. On peut dire un peu la même chose de l'AFD quand même des Allemands, même si en gros on est à 10%, on va dire ça. On peut dire la même chose du FPÖ des Autrichiens. Il y a quand même des ratés côté populisme dans ce nouveau Parlement.
Oui, c'est d'ailleurs, je trouve que à force de dire justement que l'Union européenne n'est pas démocratique et ne représente pas les peuples, je trouve que c'est un tableau très, comme disait Sylvain tout à l'heure d'ailleurs, très représentatif des turbulences internationales. Finalement, cette représentation proportionnelle dit beaucoup sur la réalité de ce que nous sommes, avec tout le cafouillage et la difficulté de lecture et les rivalités futures que ça implique. Mais en même temps, il y a quelque chose d'assez sain d'en finir avec le duopole des deux grands partis et d'avoir une vraie représentation démocratique. Alors c'est vrai qu'il y a plein de petites surprises comme les Pays-Bas. Alors c'est compliqué de tirer des généralités, des explications générales et des théories de tout ce qui se passe, chaque pays ayant un peu son histoire. Les Pays-Bas, il y a eu quand même deux leaders assez forts qui ont mené les élections, qui étaient à la fois le vice-commissaire Frans Timmermans, qui est donc le social-démocrate, qui a beaucoup de charisme, qui a beaucoup mené la campagne. Le premier ministre Mark Rutte, libéral, qui arrive en deuxième et qui lui aussi a beaucoup influencé. Il y avait la peur justement de la victoire des populistes à jouer là aussi. Pour l'Espagne, le Portugal, il y a quand même la mémoire assez fraîche de la dictature qui joue. Donc je pense que chaque pays, après, il y a des explications différentes et singulières.
Allez, on va continuer à faire le tour du nouveau camembert du Parlement. On va parler des Verts, évidemment, ce sera dans un instant. Voici Nora Jones sur France Inter. Elle n'est pas européenne, c'est vrai, mais on n'est pas sectaire.
Thank you. When the house is dark, doesn't bother me.
Time, c'est le titre, et puisque l'hiver est là, tiens, qu'est-ce qui se passe sur le trône de fer de Bruxelles? Allons-y, bonsoir Ludovic Piétenu.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à toutes et tous.
Et c'est vrai, pour continuer à filer la métaphore, que c'est un peu votre Angela Merkel qui était sur le trône de fer de l'Europe. Peut-être qu'il y a deux, trois trucs qui sont en train de changer en ce moment. Ce qu'on retient surtout, évidemment, chez vous, ce sont les Verts qui ont doublé leur score, qui dépassent les 20%. Ce qui est surtout très intéressant, c'est jusqu'à quel point, chez vous, Ludovic, ce vote, chez nous aussi, peut-être dans une moindre mesure, ce vote est très, très, très générationnel.
Absolument, 36% de ceux qui votaient pour la toute première fois ont mis dans l'urne un bulletin écolo, un tiers des 18-29 ans. Les Verts sont également en tête chez les 30-44 ans. Et puis, plus on avance en âge comme ça, Fabienne, plus on s'éloigne des villes aussi, moins le vote leur est favorable. Mais même chez les plus âgés, tout de même, les Verts ont progressé hier soir. Ils sont juste derrière les conservateurs chez les 45-59 ans. Troisième force chez les plus de 60 ans. Évidemment, l'effet des mobilisations pour le climat des vendredis très suivis. Vie particulièrement en Allemagne ont joué un rôle capital dans ce résultat.
Mais c'est vraiment vraiment une surprise ou pas? Est-ce que c'est le chiffre qui est une surprise ou la place en fait des Verts?
C'est le chiffre, je dirais d'abord un petit peu une surprise si l'on regarde les derniers sondages qui donnaient les Verts tout au long du mois de mai entre 17 et 19%. Le résultat final, on le rappelle, 20,5. Surprise très relative quand on se souvient de leur très bon résultat en octobre dernier dans deux élections régionales ici en Bavière et en Hesse. Et puis cela fait depuis la fin de l'été en réalité que la donne a changé dans le pays, que les Verts semblent à la fois supplanter les sociaux-démocrates comme deuxième force politique et supplanter aussi l'extrême droite, l'AFD, comme parti d'opposition. La question du climat, tout simplement, a remplacé la question migratoire, ce qui explique ce vent favorable aux écolos.
Et aussi, très rapidement, Ludovic, une grosse coalition qui est remise en question, qui est en danger, dans laquelle les gens ont du mal visiblement à se reconnaître. C'est aussi ça, l'un des enseignements du scrutin, non ?
Oui, ça tangue forcément pour cette grande coalition. C'est elle tangue depuis le départ, de toute façon, depuis un peu plus d'un an. Mais ça pourrait tenir parce qu'en Allemagne, on aime bien la stabilité dans les deux parties de la grande coalition. Évidemment, aujourd'hui, chez les conservateurs comme chez les sociaux-démocrates, on a déjà commencé à régler ses comptes. Ceux qui seraient les plus tentés par un départ, et certains le suggèrent déjà depuis un bon moment, ce seraient les sociaux-démocrates, bien sûr, parce que c'est eux qui ont subi la plus lourde défaite hier. Mais il y a trois élections régionales à venir. En septembre et en octobre dans l'est du pays. Le SPD ne voit pas trop l'intérêt de se retirer de la coalition d'ici là. Ce serait plutôt sa chef, Andrea Nahles, qui pourrait faire les frais personnellement de ce mauvais résultat des européennes. De toute façon, si les Allemands veulent du changement, Fabienne, au sein du gouvernement, il va y en avoir dès cet été, puisque mécaniquement, la tête de liste SPD qui vient d'être élue eurodéputée, c'est l'actuelle ministre de la Justice. Elle va donc partir. Voilà pour ce qui est acquis. Certains en Allemagne, les choses sont en train de changer. changé tout de même dans ce pays. Vous l'avez dit, on est entré dans une fin de cycle et une grande période d'incertitude. On parle même d'Angela Merkel pour présider le Conseil européen, l'instance des chefs d'État. Alors même si elle dément, faudra attendre les 20 et 21 juin, le sommet européen, pour une éventuelle désignation. Donc beaucoup de choses peuvent changer encore.
Merci beaucoup Ludovic, une manière de la mettre à la retraite doucement et avant l'heure. Angela Merkel, Marion Van Rentengen, est-ce qu'on en est là, y compris dans la lecture de ces résultats-là en Allemagne?
Angela Merkel, la bête n'est pas morte, ça fait, on passe son temps à dire qu'elle est finie et ça fait combien quoi, 14 ans que ça dure. En revanche, on peut dire, c'est vrai qu'il y a une fragilité de la coalition et que tout est un peu remis en question, qu'Angela Merkel, une fois de plus, est à l'agonie alors qu'elle tient toujours. Mais il y a quand même une exemplarité démocratique en Allemagne. Ce pays n'en finit pas de m'épater. Quand l'AfD est arrivée aux dernières élections, a fait son entrée au Bundestag à 12,5%, on a poussé des cris d'orfraie en France en disant ça y est, c'est fini, voilà, les nazis reviennent en Allemagne. Nous, on avait quand même Marine Le Pen au deuxième tour, mais on trouvait ça atroce que ça arrive chez les voisins. Et en fait, c'était quand même que 12,5% et maintenant ils sont à 10. Donc il y a quand même, il y a eu une espèce de petite ébullition de l'AfD, de l'extrême droite, après l'affaire des migrants, que Angela Merkel, à mon sens, je sais que l'avis n'est pas partagé, mais Angela Merkel, pour moi, a sauvé l'honneur de l'Europe à ce moment-là. Ça l'a affaibli temporairement politiquement. Et on voit justement que, d'abord, les Allemands ont remarquablement géré cette crise des migrants. Ils ont quand même réussi à intégrer trois quarts du million d'immigrés qu'ils ont eu. C'est un pays remarquable pour ça. Et avec une stabilité démocratique, je trouve, exemplaire. Ils ont réussi à cantonner l'extrême droite. Malgré tout, la CDU, le parti de la chancelière, reste en tête. Les Verts ont supplanté le SPD. Enfin, tout ça est assez admirable.
Les Verts, Sylvain Kahn, il y a les Verts allemands, alors, parce qu'ils seront les plus nombreux, effectivement. Ils seront, combien ils seront? 20, c'est ça? Une vingtaine?
Ça.
Ils seront 20,
ouais.
Nous, on sera 12, donc il y a les Verts français. Il y a aussi en Finlande qui a eu une poussée.
Oui.
En Belgique, enfin, surtout à Bruxelles d'ailleurs. Oui. Enfin, il s'est vraiment passé quelque chose. Et générationnellement aussi. Est-ce qu'on dit qu'il y a eu un effet Greta Thunberg ou pas? En tout cas, générationnellement, pour envoyer ces jeunes-là au vote.
Oui. Clairement, il y a un effet générationnel, mais justement, qui va avec le fait, Ludovic Piétenu, il faisait très très bien allusion, c'est-à-dire on voit bien que le vote, non seulement il y a un gradient d'urbanité, d'une part, mais il y a surtout un gradient d'âge, c'est-à-dire que moins on est jeune, plus on est attaché, disons, à la politique classique, traditionnelle, des partis auxquels on a été traditionnellement affilié en fonction de sa classe sociale, en fonction de sa catégorie socio-professionnelle. Donc, aujourd'hui, il y a en fait une autre grille de lecture qui s'impose aux jeunes générations. C'est-à-dire que les défis sont à l'échelle européenne, à l'échelle continentale et à l'échelle mondiale. Le marché du travail a complètement changé. On n'a plus du tout les mêmes fidélités qu'on avait avant, soit à sa classe sociale, soit à sa catégorie socio-professionnelle, ni même à sa confession. Donc, à partir de là, il y a tout un tas de jeunes gens, on va dire les moins de 35 ans, qui sont disponibles, on va dire, pour une autre offre politique. Et cette offre politique, elle existe effectivement depuis 10 ou 15 ans. On la trouve beaucoup chez les Verts, on la trouve aussi chez les libéraux, les démocrates ou les progressistes. On la trouve à l'autre bout du spectre chez les nationalistes européens, puisque même eux ont changé. Ils ne sont plus des nationalistes nationaux, si j'ose dire, mais des nationalistes européens. Et donc, du coup, on n'est pas surpris que chez les jeunes, enfin, jusque là, on va dire les moins de 35 ans, ce type d'offres-là connaissent un grand succès. Et puis après, on voit que c'est très très bien clivé ou réparti, si j'ose dire, en fonction du niveau de diplôme et de qualification. C'est-à-dire que les jeunes, entre guillemets, sont surreprésentés.
Les jeunes diplômés sont vote vert, les jeunes non diplômés votent au Rassemblement National.
Voilà, pour dire les choses, effectivement.
De manière un peu sèche, mais c'est un peu ça.
Et donc, mais alors, il y a enfin un autre gradient qui est que les Verts, par contre, sont beaucoup plus surreprésentés dans les pays scandinaves, quoique pas en Suède, en Suède, ils se sont plantés, ils ont reculé.
J'allais m'arrêter là-dessus, parce que c'est fou quand même. Chez Greta Thunberg, ils sont 5e, 9,5.
Et dans les pays rhénans, et un peu en France.
On a beaucoup échangé sur Twitter avec des internautes hier à ce sujet, dont certains me disaient, ils avaient sûrement raison d'ailleurs en partie, mais en même temps, c'est tellement intégré en Suède que finalement, la place d'un parti vert a moins de sens finalement. Est-ce que c'est ça la raison ou est-ce qu'ils se sont effectivement plantés, comme vous dites? Je sais pas.
En tout cas, ils se sont plantés dans la mesure où ils reculent par rapport à leur score d'il y a 5 ans. Ça, c'est c'est sûr. C'est aussi parce que actuellement en Suède, il y a quand même d'autres enjeux, on va dire, hein, très importants. C'est-à-dire que le gros enjeu, c'était quand même, est-ce que l'extrême droite va un peu reculer? Est-ce que finalement, on est content de cette espèce de coalition de bric et broc minoritaire qui a été formée par le Parti social-démocrate? Et donc finalement, ben, il y a eu un retour, on va dire, des partis de droite conservateurs. Et comme vous le disiez, ben, c'est vrai que la préoccupation écologique, de toute façon, elle est déjà complètement dans tous les partis, quoi.
Ce qu'on peut observer quand même, c'est que, il me semble, enfin, j'ai pas vraiment analysé point par point, mais que la vigueur des Verts est d'autant plus forte que le Parti social-démocrate, dans les pays où le Parti social-démocrate est en déclin. C'est le cas en Allemagne, c'est le cas en France, où finalement, le socialisme est en train de disparaître et ne trouve plus ses marques.
C'est pas le cas en Hollande.
C'est vrai,
c'est moins le cas en Belgique.
Pas général. Mais en tout cas, c'est clair en Allemagne et en France que ce parti vert a pris la place d'un parti social-démocrate totalement défaillant et en disparition.
Le parti du progrès, effectivement. En tout cas, dans la vieille Europe industrielle, c'est en ce moment, il y a un passage de témoin, comme le dit Marion, qui va des socialistes aux verts.
Voilà, ou parfois vous êtes démenti, et c'est tant mieux parce que c'est comme ça que fonctionne la politique. Très rapidement, on va aller en Espagne, voir jusqu'à quel point effectivement les socialistes espagnols qui avaient déjà créé la surprise au moment des législatives ont transformé cet effet, cet essai-là. 32% des voix, le PP en perte de vitesse, Vox qui monte, mais pas si haut, en tout cas moins haut que ce qu'on pouvait imaginer. Le reportage est signé Julie Pietri, on se retrouve après.
À Madrid comme ailleurs, les bureaux de vote, souvent des écoles, ont retrouvé leur sonorité habituelle. Les à voter nombreux, puisque 64% des Espagnols se sont déplacés, ont laissé place aux cris des enfants. À la télévision tournent les images des vainqueurs. Josep Borrell, tête de liste du Parti Socialiste Ouvrier Espagnol.
Le Parti Socialiste a par le passé beaucoup pesé sur la Constitution européenne. Et je pense que nous sommes en position aujourd'hui de retrouver cette influence. L'Europe, nous la voulons sociale et écologique.
Le Parti Socialiste Espagnol au pouvoir a marqué ces derniers mois avec des mesures comme la hausse du SMIC de 22%. Il a su capter un électorat épuisé par des années de crise. Maria, 81 ans, raconte comment elle a dû soutenir avec sa petite retraite ses enfants au chômage. Et Fernando, 48 ans, qui gagne de l'argent en réparant des guitares, dit peiner au quotidien. Tout va mal, il n'y a rien qui va. La crise économique espagnole a été rude, rappelle Paloma Román Marugán, politologue à Madrid. Le Parti populaire, empêtré dans des affaires de corruption, a mené ces dernières années une politique d'austérité sévère. Les socialistes, analyse-t-elle, représentent aujourd'hui un véritable espoir.
La classe moyenne a été frappée fortement et il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc évidemment, le discours socialiste fait mouche auprès de toutes ces personnes qui ont traversé une mauvaise passe. Mais maintenant, il faut voir comment ça va se concrétiser. Parce que c'est vrai que le contexte n'est pas facile. Il y a un bloc d'eurosceptiques qui va entrer au Parlement. Ça ne va pas être simple de construire une Europe plus sociale.
Le parti d'extrême droite espagnol, Vox, est d'ailleurs entré au Parlement. Inimaginable, il y a quelques années encore, tant le pays reste marqué par le franquisme. Trois députés siégeront avec l'intention de rester là où ils sont.
Allez, c'est important d'aller faire un aller-retour en Espagne, prendre des nouvelles de cette gauche espagnole. Il y a une chose qu'on n'a pas abordée ensemble, je voudrais qu'on le fasse depuis Bruxelles. Bonsoir Thaïs Berman.
Bonsoir Fabienne Sintès.
Merci d'être avec nous, merci d'être à nouveau avec nous. On s'était croisés lors d'une émission spéciale à Maastricht, c'est pour ça qu'on a eu envie de vous retrouver. Puisque vous êtes à Bruxelles, vous êtes un ancien député européen, vous êtes néerlandais. Moi je voudrais que vous nous parliez de cette commission, la prochaine grande guerre, au fond c'est celle-ci. Et peut-être qu'elle est même tout aussi intéressante que ce qui s'est passé dimanche.
Ah, ça sera très intéressant au Parlement européen. Moi, j'ai siégé entre 2004 et 2014, du temps où les sociaux-démocrates et les chrétiens-démocrates avaient leur grande coalition et décidaient de tout. Parfois, il fallait écouter un tout petit peu les Verts ou les libéraux, mais enfin, les grands arrangements, c'était tout. Et c'est une fin de règne, c'est fini, ça. C'est la fin des petits accords et les règlements. Ce sera très intéressant politiquement. Ils seront obligés de chercher des alliances, des compromis plus inclusifs avec les Verts et avec les libéraux. Pour moi, social-démocrate, j'ai siégé en tant que parlementaire social-démocrate, pour moi, c'est une avancée. C'est une très bonne chose pour la démocratie européenne. On est entré dans une Europe plus politique que jamais.
Est-ce que ça veut dire que pour diriger la commission désormais, la règle normalement c'est que, en gros, le chef du parti le plus représenté dans ce fameux camembert européen, c'est lui qui prend la tête de la commission. Est-ce que ça va être remis en cause ou est-ce que, ou pas en fait, à votre avis?
C'est une bataille entre le Conseil des chefs d'État et de gouvernement d'un côté et de l'autre côté le Parlement européen qui de plus en plus exige de pouvoir déterminer qui sera le président de la Commission. Bon, jusque-là, c'était les chefs d'État et de gouvernement quand même qui ont décidé qui était à la tête. C'est Jean-Claude Juncker aujourd'hui. Est-ce que ce sera M. Weber des chrétiens-démocrates puisque c'est le plus grand groupe? Ce n'est pas si sûr du tout parce qu'il n'est pas très populaire chez ses propres copains chrétiens-démocrates en Europe. On verra bien. Il est très bien possible que qu'à la fin, ce sera libéral. Enfin, il y aura un grand marchandage, une grande négociation.
Et ce marchandage, merci beaucoup Thaïs Berman, merci pour ce petit aller-retour rapide dans Un jour en Europe aujourd'hui. Ce petit marchandage, on verra donc comment il prendra forme. Ça viendra très très vite. Jean-Marc Four s'est assis autour de la table avec nous. Bonsoir, Jean-Marc.
Bonsoir à tous.
Jean-Marc, vous êtes allé regarder, vous, ce qu'on dit de nous ailleurs, ce qu'on dit, comment on commande ces élections européennes et si on les commande surtout.
Oui, alors il y a certains continents, par exemple l'Asie, où tout le monde s'en fiche, pour la faire courte. C'est-à-dire, on pourrait se dire, après tout, il y a quand même l'enjeu commercial, etc. C'est une puissance commerciale l'Europe. Non, en fait, ils s'intéressent exclusivement au sujet, encore aujourd'hui, Trump-Chine, au sujet de la visite de Trump au Japon. Mais les élections européennes, tout le monde s'en moque. Le seul sujet européen qui les intéresse aujourd'hui, c'est Fiat, Renault, Nissan, avec l'impact sur Nissan. Ça intéresse la presse asiatique, mais les élections européennes, ça les intéresse pas. Le résultat en tant que tel, ça les intéresse pas tellement. Il y a moins d'indifférence aux États-Unis, où là, on souligne, alors ça va aller à l'encontre de ce que disait Sylvain Cadeau au début de l'émission, on souligne non pas l'équilibre, mais la fragmentation, et le fait que l'Europe est divisée, éclatée, sans unité, sans cap clairement défini. Il parle même de la mort du centre. Je sais pas si ça va plaire à Emmanuel Macron de dire qu'il y a eu la mort du centre avec la disparition, le déclin des sociaux-démocrates et du PPE, c'est une des formules utilisées par la presse américaine.
C'est aussi une drôle de lecture, mais quand on est un pays bicéphale politiquement, peut-être qu'on ne sait pas très bien où ça se situe.
Voilà. Le centre n'est pas une notion très chinoise.
Exactement, ni chinoise ni américaine. Au fond, il y a des intérêts pour quelques leaders de l'extrême droite ou pas, Salvini par exemple.
Oui, il y a un intérêt. C'est assez curieux parce qu'à la fois il y a une focalisation sur Salvini, la photo de Salvini est partout et il est clairement perçu comme le leader de l'extrême droite européenne. Et en même temps, il y a une sorte de pardonnez-moi l'expression, de déception. C'est-à-dire que finalement, la vague populiste n'est pas aussi massive qu'on pouvait s'y attendre. Donc c'est moins sexy d'un point de vue médiatique, petit un. Et puis petit deux, il y a quand même le sous-entendu, alors pour le coup, le background, on va dire, politique, qui est que Trump aurait préféré, pour la faire courte, une poussée des populismes. Et du côté chinois, c'est probablement la même chose parce que ça aurait eu pour impact une certaine division de l'Europe.
En fait, ce qui les intéresse, j'imagine, c'est ce qu'on disait à l'instant avec Thaïs Berman, évidemment.
Oui,
donc, patron de la Commission, patron du Conseil, patron du Parlement.
Oui, parce que c'est qui va décider de la ligne politique de l'Europe sur les négociations commerciales. Donc, par exemple, qui sera commissaire à la concurrence? On se souvient du rôle joué par Margrethe Vestager. Ça les intéresse.
Qui est en lice pour la Commission, d'ailleurs?
Qui sera au représentant aux affaires étrangères, quand même, qui succédera à Federica Mogherini. Est-ce qu'il y aura à nouveau un socialiste, un social-démocrate? On parle notamment de Josep Borrell, par exemple, l'espagnol. C'est un nom qui circule. Et évidemment, qui sera président de la Commission? Ça les intéresse. Et si c'est du ventre mou, on va dire, ils vont se dire tant mieux. Et si en revanche ça déménage, je repense par exemple à Vestager, ça déménagerait un peu. Là, ça serait beaucoup plus intéressant.
La BCE, ça les intéresse ou pas, notamment les Américains ou pas?
Oui,
du tout
parce que les sujets monétaires les intéressent. Mais quand même, globalement, le big job de président de la Commission, c'est ce qu'il est. Ça, même la presse asiatique, là pour le coup, il regarde.
Allez, Jean-Marc, merci beaucoup et merci à tous. On vous salue, Marion Van Rentengen. Merci beaucoup. Vous revenez quand vous voulez. Sylvain Kahn, on va vous garder, vous, pour le téléphone sonne le 18-20. La suite, justement, c'est toutes les cartes maintenant que vous les avez bien en main. Eh bien, à vous de poser des questions sur ce camembert européen, un petit bout de français aussi, si vous le souhaitez. C'est vous qui faites l'émission, comme d'habitude.